Soir Afrique, les infos. À Washington.
Idrissa Seydoudia, bonsoir à tous et à toutes. Deux attentats ont ensanglanté aujourd'hui le Nigeria, faisant au moins 55 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du pays. Tandis qu'à la frontière camerounaise, les islamistes de Boko Haram ont pris durant plusieurs heures le contrôle d'une nouvelle ville. Au Cameroun, les insurgés ont occupé Kerawa, ville de l'extrême nord, frontalière du Nigeria, une bonne partie de la journée avant d'en être chassés par l'armée camerounaise. C'est la première fois depuis des mois que Boko Haram s'emparait d'une localité après avoir été considérablement affaibli par une coalition militaire régionale depuis début 2015. L'ancien Premier ministre Charles Konan Badi, membre de la Coalition nationale pour le changement, une coalition de l'opposition, a annoncé son retrait de la présidentielle de dimanche. Monsieur Charles Konan Badi a dénoncé un processus inique. Il n'a cessé de critiquer les conditions d'organisation du scrutin et il est le troisième candidat à se retirer de la course à la présidence après l'ancien ministre des Affaires étrangères Amara Essi et l'ex-président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly. L'opposition congolaise est restée en retrait vendredi, tandis qu'après les récentes violences, l'archevêque de Brazzaville appelait à sauver la cohésion nationale à deux jours du référendum qui pourrait permettre au président sortant de briguer un troisième mandat. Les Congolais sont appelés à se prononcer dimanche sur un projet de nouvelle constitution faisant sauter les deux verrous qui empêchent M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016, c'est-à-dire la limite d'âge et celle du nombre des mandats présidentiels. La récente désignation du nouveau chef de la commission électorale en République démocratique du Congo n'est pas de nature à rassurer sur la tenue prochaine de scrutins crédibles dans ce pays, a estimé vendredi La Voix des Sans-Voix, une des principales ONG congolaises de défense des droits de l'homme. Au moins 5 personnes ont été tuées et 30 blessées vendredi à Benghazi, dans l'est de la Libye, dans des tirs d'obus sur une manifestation contre un projet de gouvernement d'union nationale proposé par l'ONU, selon des sources médicales. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir qui était derrière cette attaque.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les organisations de la société civile haïtienne craignent pour la sécurité de la population lors de la journée de vote de dimanche pendant laquelle les citoyens sont appelés à élire leur futur président. Les principales organisations haïtiennes d'observation électorale ont fait part lors d'une conférence de presse vendredi à Port-au-Prince de leur incertitude quant au travail des forces de l'ordre dont elles doutent de la neutralité, selon Pierre Espérance, secrétaire exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Des milliers de Palestiniens se sont rendus vendredi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, ouverte par Israël sans restriction pour la première fois depuis des semaines, dans un geste d'apaisement. Mais des heurts violents ont fait plus de 80 blessés en Cisjordanie et à Gaza. La Russie a mené vendredi une offensive diplomatique sur la Syrie lors d'une réunion quadripartite exceptionnelle face au trio États-Unis, Arabie Saoudite, Turquie, en annonçant un accord surprise de coordination militaire avec la Jordanie dans le ciel syrien. Dans la capitale autrichienne, où elles étaient réunies pour tenter de trouver une sortie politique au conflit syrien qui a fait 250 000 morts depuis 2011, la diplomatie russe, soutien clé du régime syrien depuis 2011, était en minorité face aux diplomaties américaines, turques et saoudiennes, farouches adversaires de Damas. Mais Moscou a créé la surprise en annonçant une nouvelle alliance, une coordination de ses opérations militaires dans le ciel syrien avec la Jordanie, alliée des États-Unis et membre de la coalition contre l'organisation djihadiste État islamique. C'était Idrissa Seydoudia, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Merci à Idrissa Seydou Dia pour le tour de l'actualité. En 5 minutes, Eric Manirakiza depuis le studio 10 de La Voix de l'Amérique dans votre antenne libre, votre émission interactive. Nous continuons notre série sur la présidentielle en Côte d'Ivoire. Rebondissement aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Charles Konan Bani, membre de la Coalition nationale pour le changement CNC, une coalition de l'opposition, a annoncé cet après-midi son retrait du scrutin de dimanche, dénonçant un processus inique. Monsieur Konan Bani, qui n'a cessé de critiquer les conditions d'organisation du scrutin, est le troisième candidat à se retirer de la course à la présidence après l'ancien ministre des Affaires étrangères Amara Issi et l'ex-président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly. Monsieur Issi avait affirmé ne pas vouloir se rendre complice d'une mascarade électorale alors que Monsieur Koulibaly dénonce des élections truquées. Le pouvoir et certains observateurs ont ironisé sur ce boycott, l'attribuant à la peur des opposants de prendre une veste, c'est entre guillemets. Le président sortant Alassane Ouattara, qui se targue d'un bon bilan économique, est le grand favori du scrutin qu'il espère gagner au premier tour. Et le principal adversaire du président Ouattara devrait être un autre ancien premier ministre, Pascal Affinguessan, investi par le Front populaire ivoirien, FPI, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Une partie du parti prône le boycott au nom de la fidélité à M. Gbagbo. D'ailleurs, Gbagbo, depuis sa cellule à La Haye, a affirmé qu'il ne soutient aucun candidat dans cette élection en Côte d'Ivoire. Voilà la question qui se pose. Va-t-on avoir une élection crédible, apaisée en Côte d'Ivoire et espérer tourner la page avec tourner la page sombre qu'on a vue après les élections de 2010, nous avons essayé d'inviter beaucoup d'acteurs dans cette émission pour faire le tour de toutes ces questions. Je suis ici au studio à Washington avec M. Kone Yakuba. Il est directeur de campagne adjoint chargé de Washington DC et il est du parti du président Alassane Ouattara. Monsieur Kone, bonjour, bonsoir. En Afrique, c'est déjà la nuit.
Oui, bonsoir.
C'est bien ça, je ne me suis pas trompé.
Non, pas du tout, c'est ça.
Merci d'être ici pour participer dans cette émission. Mais nous sommes en direct d'Abidjan avec Christophe Kwame. Il est politologue et membre de la société civile. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous encore une fois.
C'est moi qui vous remercie.
On sera également en ligne avec notre envoyé spécial à Abidjan, Tatiana Mosso, qu'on attend encore pour pouvoir la joindre. On aura aussi d'autres participants de l'opposition et des auditeurs qui ont posté des messages sur notre page Facebook pour contribuer justement à l'évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord vous faire écouter cette ambiance aujourd'hui. C'était au cours de la campagne du candidat, le président sortant Alassane Ouattara.
Si par hasard vous n'avez pas retiré vos cartes d'électeur, allez à votre bureau de vote. Là-bas, vous êtes sur la liste électorale et vous montrez votre carte nationale d'identité et vous pouvez voter. Avec la carte d'identité, il faut voter dimanche. Un vote massif. Dimanche 25 octobre. Ce sera la victoire d'Ado. Oui, nous allons faire un coup KO. Nous allons faire un coup. Alors, on me dit qu'il reste combien de candidats il reste? Bon, on va faire un coup KO, on va les balayer tous. Un coup KO. Oui, c'est important de voter dimanche. Oui, je vous demande d'aller massivement. Comme vous êtes ici ce soir, si nombreux, allez-y montrer à la face du monde que la crise est terminée en Côte d'Ivoire. Mieux que la Côte d'Ivoire est en paix, que Ado est président pour 5 ans encore. Oui, la victoire avec, la victoire avec. Oui, nous allons fêter la victoire le 25 octobre au soir. Je compte sur vous tous, allez-y voter.
Voilà, c'était l'extrait de l'ambiance qui régnait à Abidjan. Madame la ministre, vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et merci d'accepter notre invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Oui, sans doute.
C'est l'occasion que vous nous donnez de parler de la campagne en Côte d'Ivoire.
Oui, sans doute que vous étiez sur place, vous avez vécu cette ambiance. Est-ce que réellement la crise est terminée en Côte d'Ivoire?
Mais écoutez, je pense que la crise est totalement derrière nous. Parce que le monde entier a suivi avec effroi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle, mais surtout de 2010, et surtout après l'élection de 2010. Lorsque l'ancien président a refusé de céder le fauteuil au président Ouattara qui venait d'être élu. Donc il y a eu une crise post-électorale sans précédent en Côte d'Ivoire, avec son lot de violences, de morts, de blessés, de mutilés, etc., etc. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont la chance de parcourir la Côte d'Ivoire peuvent bien attester qu'effectivement la crise est totalement terminée.
Oui, Madame Camara.
Oui. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara.
Madame Camara, un instant.
Il n'y a plus de violence en Côte d'Ivoire.
Madame Camara, est-ce que vous auriez un poste récepteur tout près de vous parce qu'on vous entend un peu à peine? Allô?
Oui. Je suis loin de la télé et de la radio.
Ah, ok.
Non, il n'y a pas tout ça.
Ah, oui. Donc pour vous, la crise est terminée, mais on a vu des candidats qui se sont retirés parce qu'ils ont estimé que le processus n'est pas crédible. Aujourd'hui, il y a eu sans doute une surprise de Charles Konan Bani. C'est une autre crise, n'est-ce pas?
Vous savez, au départ, il y avait 10 candidats et il y a 2 qui se sont retirés il y a quelques jours. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'un candidat, le jour même de la clôture de la campagne, se retire du processus. C'est surprenant parce que vous savez qu'une élection, que ce soit l'élection présidentielle ou les autres élections...
Madame Camara, est-ce que votre téléphone est... Est-ce que vous avez mis un speaker sur votre téléphone parce qu'on a un problème pour mieux vous entendre? Allô? Allô? Allô?
Vous ne m'entendez pas? Oui, vous ne m'entendez pas?
Non, non. Est-ce que vous avez mis votre téléphone au haut-parleur?
Non, pas du tout.
Ah, parce qu'il y a pas un problème. Ça, ok. Oui, continuez.
Ah, c'est dommage, hein?
Continuez, oui.
C'est dommage. D'accord. Donc, je disais que une élection présidentielle, tout comme les autres élections, le vote est l'aboutissement de tout un processus qui commence depuis de longs mois. Donc, la CEI, c'est la Commission électorale indépendante, a commencé le processus électoral depuis longtemps. D'abord, en demandant aux Ivoiriens de se faire inscrire sur la liste. Ensuite, la liste a été publiée, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Alors, dire que le processus n'est pas transparent, je pense que ce n'est pas, je dirais, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas très honnête.
Madame,
il y a eu... beaucoup de partis politiques, les plus grands partis politiques sont représentés au sein de la CEI. Mais mieux, le président de la République lui-même, après le vote à l'Assemblée nationale, à la demande justement de certains partis politiques avec la CEI, a dû permettre que d'autres partis politiques se représenter.
Oui, madame.
Dans le souci vraiment de faire d'organiser des élections transparentes.
Excusez-moi, madame.
Et surtout d'obtenir le consensus.
Madame Camara, excusez-moi. Essayez d'être brève parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans cette émission. Question. Apparemment, il y a eu des revendications exprimées par les opposants, mais qui n'ont pas été disons, l'oreille attentive.
Lesquelles?
OK, on va passer le micro à M. Christophe.
Est-ce que vous trouvez normal, je prends la revendication d'un des candidats, est-ce que vous trouvez normal la CEI modifie les règles du jeu, la composition de la CEI,
madame,
parce que quelqu'un est candidat?
Madame, on va passer la parole à M. Christophe. On va passer la parole à M. Christophe Kwame, qui est membre de la société civile. M. Christophe, Madame la ministre pose la question de savoir quelles sont les revendications qui n'ont pas été écoutées et auxquelles il fallait apporter des solutions. Voudriez-vous peut-être énumérer quelques-unes?
Ce n'est pas des revendications des politiques qui n'ont pas eu... Il existe des revendications des politiques qui n'ont pas eu de suite, mais moi, je voulais m'appesantir tout au long du processus, parce que c'était un long processus, des réclamations de la société civile qui ont fait l'objet de déclarations tout au long de ce processus qui n'ont pas eu de suite. La première réclamation qui n'a pas eu de suite concerne la composition de la CEI. Quand vous regardez dans toute l'Afrique de l'Ouest, les deux pays qui ont des problèmes de CEI, c'est la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et c'est de la même façon dont on compose la CEI à quelques différences près. C'est-à-dire un représentant du président de la République, un représentant de telle ou telle institution. Et donc, tout cela donne une faveur représentative au candidat président. C'est-à-dire que le candidat président en Côte d'Ivoire a plus de représentants au sein de la CEI. Nous l'avons dénoncé, il n'y a pas eu de suite. Ensuite, au niveau de la société civile elle-même, le choix était obscur, il n'y a pas eu de transparence. Mes collègues ont reçu des SMS nuitamment, ils sont allés faire le vote, et la personne même qu'on a choisie au sein de la société civile qui siège au niveau de la CEI, ce jour-là n'était même pas présent sur le territoire, dont la possibilité de vérification. Et tout cela est mentionné dans la déclaration que nous avons faite au niveau de la société civile. Ensuite, nous passons à la deuxième étape. Après la composition de la CEI, il y a la liste électorale et enfin le code électoral. Un des éléments aujourd'hui que personnellement j'ai été interpellé par plusieurs citoyens pour que je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est un problème de perception. Le 21, c'est-à-dire qu'avant-hier mercredi, la CEI vient de faire un communiqué à dessein sur la façon de voter, qui est qu'on peut voter avec la CNI, la carte nationale d'identité, ou le document, comment on l'appelle, le document qu'on peut retirer à la CEI pour donner, passez-moi le mot, pour pouvoir voter. Il y a deux documents.
C'est la carte d'électeur.
Voilà, merci. Donc, la carte d'électeur ou la carte nationale d'identité. C'est vrai dans l'article 37, mais tout au long de cette journée encore, nous avons été assaillis de questions pour le citoyen lambda qui ne comprend pas que c'est à 4 jours qu'on donne ces informations. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ressemblent un peu à de l'improvisation. Et en matière d'élection, c'est la confiance qui prime. La confiance entre, en général, le président sortant et l'opposition. Et l'opposition a réclamé ne serait-ce que qu'elle s'asseye sur une table et qu'on discute de manière consensuelle des derniers goulots d'étranglement pour qu'on puisse aller à des élections, je dirais, consensuelles. L'opposition ne l'a pas obtenu. Et je dis ici, comme je l'ai dit hier sur votre antenne et comme je viens de le dire sur une antenne de télévision, qu'il est de la responsabilité, je dis bien de la responsabilité première de celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire le président actuel sortant, de s'organiser pour que même quand il manque 1% de confiance, que cette confiance puisse aller et que cette confiance n'entache pas la crédibilité des élections. Voilà ce que je peux dire en résumé sur ce plan-là.
Mmh. Merci, Monsieur Christophe. Je me retourne vers Monsieur Kone Yakuba ici, qui est directeur de campagne de la coalition Ouattara ici à Washington. Je ne vais pas revenir sur certaines questions, mais une petite question. Est-ce que vous pensez également que la crise est terminée en Côte d'Ivoire?
Oui, effectivement. Je vous remercie. Je dis bonsoir à madame, qui est notre présidente. Ben, je dirais que oui, la crise, comme madame le disait tout à l'heure, est tout à fait derrière nous. Donc nous ne parlons plus de crise en Côte d'Ivoire parce que cette crise a été plus ou moins managée d'une manière correcte. Et aujourd'hui, l'Ivoirien ne parle plus de crise. Nous voyons maintenant, nous parlons que de l'avenir, du futur en Côte d'Ivoire.
Comment peut-on qualifier ce retrait de certains candidats du processus électoral?
Ben, je veux simplement dire que ce sont des retraits du peuple parce que ils ont vu le terrain, ils ont tacté plus ou moins leur force sur le terrain et ils ont senti que réellement il n'y avait rien, ils ne pouvaient pas gagner ces élections-là. Donc vous n'allez pas en guerre sachant que vous avez perdu. Donc il est mieux, c'est une décision sage d'ailleurs, de garder les 100 millions devant eux. Et ce que garder les 100 millions, ce que moi je qualifie de mendicité politique. Parce que si tu sens que tu ne peux pas te présenter à des élections, ce n'est pas la peine de venir et puis encaisser 100 000 dollars et se retirer. Et 100 millions de francs CFA plutôt. 100 millions de francs CFA. Donc je disais que c'est de bonne guerre. Ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'en face d'eux, il y avait quelqu'un qui est plus qualifié qu'eux, de plus bien qu'eux, politiquement, sur tous les plans, économiquement, et qui ne pouvait pas. Voilà.
Oui, il y a un problème de liberté d'expression apparemment. Trois quotidiens qui ont été suspendus parce qu'ils ont diffusé des messages de certains politiciens qui appelaient au boycott. N'est-ce pas un droit de diffuser un tel message? Et c'est aux politiciens de convaincre les électeurs s'ils doivent... après tout, c'est... le votant qui prend sa décision au finish.
Ben, je vais vous rappeler qu'avant le processus électoral, un code de bonne conduite avait été signé par différents partis. Et la presse écrite, toute la presse, les médias en Côte d'Ivoire, avaient adhéré à ce processus, à ce code-là de bonne conduite. Donc la décision qu'ils avaient maintenue à leur niveau, c'était de sanctionner tout organe qui... s'améliorerait ou poserait des actes à semer le désordre ou sinon la pagaille.
Est-ce que l'appel au boycott est-il vraiment un désordre?
Non, ce n'est pas ça seulement, ce n'est pas l'appel, parce qu'il n'était pas le seul à lancer l'appel au boycott. Il y a eu M. Bani, il y a eu M. Essi qui ont appelé au boycott. Pourquoi rien ne s'était passé? Parce que si vous lisez ces articles-là, vous verrez que ce ne sont pas des simples appels. Oui, et c'est ce que nous reprochons à ces gens. Voilà.
Oui, monsieur Jean Bonnet, vous nous entendez? Monsieur Jean Bonnet, vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là?
Je vous entends.
Oui, voilà, votre candidat s'est retiré aujourd'hui. C'était la surprise. Pourquoi ce retrait?
Non,
au dernier jour de la campagne.
Mon candidat, c'est Pascal Afingessa, il s'est retiré. Mon candidat, c'est
pas... Ah, je m'excuse. Oui, donc vous restez dans la campagne et vous allez à la présidentielle. Oui, il y a des candidats qui ont dit que le processus n'est pas crédible, que la commission qui est chargée d'organiser les élections est partielle. Votre commentaire?
Mais ils n'ont pas tort de dire ça. Ils n'ont pas tort de dire ça, mais nous partons du principe général que, de toute façon, il n'y a pas de conditions parfaites pour une élection en Afrique. Il n'y a pas de conditions parfaites pour une opposition en Afrique. Et ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas parfaites que nous allons abandonner les Ivoiriens à leur sort. Ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas parfaites que nous allons adopter une position de résignation. Nous nous battons justement pour prendre le pouvoir, pour parfaire les conditions d'accession au poste suprême qu'est la présidence de la République. Donc, nous comprenons nos camarades qui décident de ne pas aller parce que les conditions ne sont pas parfaites. Nous comprenons très bien, mais la position que nous avons adoptée, nous, c'est de dire qu'en dépit de ces imperfections, on ne doit pas abandonner la Côte d'Ivoire à Ouattara. On ne doit pas abandonner le processus au régime actuel parce que ce serait une démission vis-à-vis des Ivoiriens.
Oui, mais, voilà. Monsieur Bonin, votre oui. candidat à Fingessa, le slogan qu'il a lancé, c'est « Si vous voulez que Gbagbo revienne au pays, votez pour moi ». Pourtant, Gbagbo, il n'a pas reconnu la candidature de monsieur Afingessa. Comment vous expliquez ce paradoxe?
Non, le slogan de Afingessa, c'est le changement maintenant. Son slogan n'a jamais été « Si je suis élu, je vais libérer Gbagbo ». Non, Afingessa dit « C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a extradé Gbagbo à La Haye. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui fournit des preuves à La Haye contre Gbagbo. Il faut donc que l'opposition... qu'il arrive à la tête de l'État de Côte d'Ivoire pour, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, renoncer à toute poursuite comme le président Gbagbo qui est incarcéré de manière injuste. Et donc, pour pouvoir libérer le président Gbagbo, comme cela on l'a vu au Kenya, les charges contre le président kenyan
avaient été
confirmées à La Haye. Mais le Kenya ayant décidé de ne pas poursuivre, de ne pas fournir de preuves contre son président de la République, la CPI a été obligée donc d'abandonner les poursuites contre le président kenyan. Mmh. C'est exactement la même chose en Côte d'Ivoire.
Oui.
Donc, pour qu'on puisse libérer Gbagbo, il faut que nous soyons au pouvoir parce que c'est le régime actuel qui l'a extradé et c'est le régime actuel qui, avec la CPI, le poursuivre.
Mmh. Votre candidat veut du bien pour l'ancien président qui est à La Haye. Mais Gbagbo ne reconnaît pas Afingessa. C'est un paradoxe.
Gbagbo n'a jamais pris de position. Gbagbo a un porte-parole, il s'appelle Maître Atilt. Et Maître Atilt n'a jamais pris de position dans les élections ivoiriennes. Il n'a jamais parlé au nom de Gbagbo.
Oui, mais alors, il y a eu un communiqué.
Un certain nombre de personnes.
Il y a eu un communiqué cité par l'Agence française de presse.
Pardon ?
Il y a eu un communiqué de Gbagbo cité par l'Agence française de presse, dans ce sens.
Oui, mais il n'est pas signé de Gbagbo, il est signé de qui ce communiqué?
Mm-hmm.
Ce communiqué n'est pas signé de Gbagbo. Gbagbo, je vous dis que Gbagbo a un avocat, et c'est cet avocat qui parle au nom de Gbagbo. Toute autre personne qui parle au nom de Gbagbo est dans la forfaiture. Voilà. Donc Gbagbo n'a rien dit du tout et on ne peut pas prétendre que Gbagbo reconnaît ou ne reconnaît pas Afingessa parce que Gbagbo n'a rien dit du tout. Gbagbo se tient à distance des querelles politiciennes, mais il sait très bien que Afingessa, dans sa démarche, dans sa logique, est celui qui a le plus de chance d'obtenir sa libération de la CPI.
Mmh. Gardez la ligne, on va observer une petite pause et je reviens vers vous dans un instant.